Tu n'as pas fait ça ?
Bien sûr que si. Papa et maman m'ont donné un nécessaire à empreinte l'année dernière à Noël. Un vrai, pas un jouet. Avec la poudre et les brosses pour 3 types de surface et le papier spécial pour les relever. Mes parents savent que je veux être d'épée quand je serai grand. Naturellement, ils croient que je vais oublier en vieillissant.
Il écarta cette idée d'un haussement d'épaule indifférent.
Le livre explique tout sur les boucles et les plateaux et les points de similarité. On appelle ça des similitudes. Il faut 8 similitudes par empreinte pour que ça passe au tribunal. En tout cas, un jour que vous étiez au cinéma, je suis venu ici saupoudrer votre boîte aux lettres et votre bouton de porte, et j'ai relevé toutes les empreintes que j'ai pu. Plutôt malin, hein ?
Doucander ne dit rien. Il serrait les bras de son fauteuil, et sa bouche édentée, avachie, tremblait. Todd n'aimait pas ça. On aurait dit qu'il était au bord des larmes. Ce qui, naturellement, était ridicule. Le monstre sanguinaire de Patine en larmes ? Pourquoi pas Chevrolet en faillite ou McDonald's abandonnant les hamburgers pour vendre du caviar et des truffes ?
J'ai eu 2 séries d'empreintes, dit Todd. Une n'avait rien à voir avec celle de la vie de recherche. J'ai pensé que c'était celle du facteur. L'autre, c'était les vôtres. J'ai trouvé plus de 8 similitudes. J'en ai même trouvé 14. Et des bonnes ?
Il sourit.
Voilà comment j'ai fait.
Tu es un petit salopard, dit Doucander,
et ses yeux brillèrent d'un éclat menaçant. Todd eut un petit frisson d'excitation, comme en entrant. Puis le vieil homme retomba sur son siège.
À qui en as-tu parlé ?
À personne.
Pas même à cet ami, ce Connie Pegler ?
Foxy. Foxy Pegler. Non, il est trop bavard. Je n'ai rien dit. Il n'y a personne en qui j'ai confiance à ce point.
Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Je crains fort qu'il n'y en ait pas. En Amérique du Sud, il y en avait. Mais rien d'aussi romanesque ou dangereux que le trafic de drogue. Il y avait une sorte de réseau de vieux copains au Brésil, au Paraguay et à Saint-Domingue, tous en fuite depuis la guerre. J'ai fait partie de leur cercle, et je me suis pas trop mal débrouillé dans les mines et les minerais. Étain, cuivre, bauxite. Et puis les choses ont changé. Le nationalisme, l'anti-américanisme. J'aurais pu flotter sur les vagues, mais les limiers de Wiesenthal ont retrouvé ma piste. La malchance, mon garçon, attire la malchance comme une chienne en chaleur attire les chiens. Ils ont failli m'avoir 2 fois. J'ai même entendu ces salopards de juifs dans la pièce voisine. Ils ont pendu Eichmann,
murmura-t-il. Il porta une main à sa gorge et ses yeux s'arrondirent, comme ceux d'un enfant au moment le plus noir d'une histoire à faire peur. Hansel et Gretel, par exemple, ou Barbe Bleue.
C'était un vieil homme. Il n'était plus dangereux pour personne. Apolitique. Ils l'ont tout de même pendu.
Todd approuva de la tête.
Finalement, je suis allé voir les seuls qui pouvaient encore m'aider. Ils en avaient aidé d'autres, et j'étais à bout de course.
Vous êtes allé trouver l'Odessa ?
Demanda Todd, les yeux brillants.
Les Siciliens,
dit sèchement Doucander. Et Todd fut à nouveau déçu.
Ça s'est arrangé. Des faux papiers, un faux passé. Tu veux boire quelque chose, gamin ?
Bien sûr. Vous avez un coke ?
Pas de coke.
Du lait ?
Du lait.
Doucander passa sous l'arcade donnant sur la cuisine. Un bar fluorescent s'éclaira avec un grésillement.
Je vis maintenant du revenu de mes actions,
dit-il, invisible.
Des actions achetées après la guerre sous un nom d'emprunt, par l'intermédiaire d'une banque dans le Maine, rien de moins. Le banquier qui a fait l'affaire s'est retrouvé en prison 1 an plus tard pour avoir tué sa femme. Parfois la vie est étrange, hein, gamin ?
Une porte de frigidaire s'ouvrit et se referma.
Ces chacals de Siciliens n'avaient pas entendu parler de ces actions. Aujourd'hui, ils sont partout. Mais à l'époque, ils n'allaient pas plus au nord que Boston. Autrement, ils les auraient raflés.
Ils m'auraient ratiboisé jusqu'à l'os et envoyé en Amérique pour vivre de l'aide publique et de la soupe populaire. Un peu de General Motors, un peu d'American Telephone and Telegraph, 150 parts de Revlon. C'est le banquier qui a choisi. Dufresne, il s'appelait. Je m'en souviens, c'est un nom qui ressemble un peu au mien. Il n'a pas été aussi malin en tuant sa femme qu'en choisissant des actions. Un crime passionnel, gamin. Cela prouve seulement que tous les hommes sont des ânes qui savent lire. J'ai vécu convenablement pendant 5 ans grâce au portefeuille d'actions constitué par ce Dufresne. Mais j'ai vendu mes Diamond Match pour acheter cette maison et une petite villa près de Big Shore. Puis l'inflation, la récession. J'ai vendu la villa et ensuite les actions, une à une, souvent avec un bénéfice fantastique. Ah, si seulement j'en avais acheté davantage. Mais je me croyais par ailleurs bien à l'abri, et ces actions n'étaient, comme vous dites, qu'une poire pour la soif.
Il eut un sifflement dédenté et claqua des doigts. Todd s'ennuyait. Il n'était pas venu écouter Doux Sander gémir sur son fric ou marmonner à propos de ses actions. L'idée d'un chantage ne lui était jamais venue. De l'argent? Qu'en ferait-il? Il avait son argent de poche, la vente des journaux. S'il avait besoin de fric, il y avait toujours quelqu'un qui voulait faire tondre sa pelouse. Todd porta son verre à ses lèvres, puis hésita. Son sourire s'éclaira de plus belle. Un sourire admiratif? Il tendit le verre en plastique au vieil homme.
« Prenez-en un peu, » dit-il d'un air rusé.
Doux Sander le regarda un moment sans comprendre, puis leva au ciel ses yeux injectés de sang.
« Grosse goutte !»
Il prit le verre, but 2 gorgées et le rendit au garçon.
« Pas de hoquet d'agonie, pas de gorge en feu, pas d'odeur d'amande amère. C'est du lait, gamin, du lait. De la ferme d'Erilly. Il y a une vache qui sourit sur le carton. »
Todd le surveilla quelques instants, puis goûta prudemment. Oui, c'était bien le goût du lait, évidemment. Mais il n'avait plus tellement soif, après tout. Il reposa le verre. Doux Sander haussa les épaules, leva le sien, augmenté d'une bonne dose de whisky, et but une gorgée. Ensuite, il fit claquer ses lèvres.
« C'est du schnapps ?»
demanda Todd.
« Du bourbon, du très vieux. Très bon, mais pas cher. »
Todd pianota sur les coutures de son jean.
« De sorte, » poursuivit Doux Sander, « que si tu pensais avoir trouvé la poule aux œufs d'or, t'es plutôt tombé sur une qui ne pompe plus grand-chose. »«
Hein ?»«
Le chantage, » dit Doux Sander. L'extorsion. N'est-ce pas le mot employé dans Mannix, Hawaii Five-O et Barnaby Jones? L'extorsion. Si c'est ce que...
Todd avait éclaté d'un rire joyeux, enfantin. Il secoua la tête, voulut parler, en fut incapable et continua à rire.
Non,
dit Doux Sander, soudain grisâtre et vraiment effrayé, pour la première fois depuis l'arrivée de Todd. Il but encore une grande gorgée, fit la grimace et frissonna.
« Je vois que ce n'est pas ça. Pas pour l'argent, en tout cas. Mais tu as beau rire, je flaire tout de même l'extorsion quelque part. De quoi s'agit-il? Pourquoi viens-tu ici déranger un vieillard? Peut-être, comme tu le dis, étais-je autrefois un nazi, et même un SS. Maintenant je suis vieux, c'est tout. » Et je dois prendre un suppositoire pour faire fonctionner mes intestins. Alors qu'est-ce que tu veux ?
Todd s'était calmé. Il fixa Doux Sander avec une franchise émouvante.
Eh bien, je veux qu'on me raconte. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Vraiment.
Qu'on te raconte ?
Répéta Doux Sander en écho, parfaitement perplexe. Todd se pencha en avant, ses coudes bronzés sur ses genoux.
Bien sûr. Les pelotons d'exécution, les chambres à gaz, les fours, les types qui devaient creuser leur propre tombe et se mettre au bout pour ensuite tomber dedans,
sa langue apparut et vint mouiller ses lèvres.
Les examens, les expériences, tout, tous les trucs juteux.
Doucander, stupéfait, le regarda avec une sorte de détachement, comme un vétérinaire pourrait regarder une chatte donner naissance à une portée de chaton à deux têtes.
« Tu es un monstre !»
dit-il d'une voix douce. Todd renifla.
« D'après les livres que j'ai lus pour mon exposé, c'est vous qui êtes un monstre, monsieur Doucander. Pas moi. Vous les avez envoyés au four. Pas moi. 2000 par jour à Patine avant votre arrivée. 3000 ensuite. 3500 quand les Russes sont arrivés et vous ont fait arrêter. Himmler disait que vous étiez un champion de l'efficacité et il vous a donné une médaille. Et c'est vous qui me traitez de monstre ? Oh, mec !
Tout cela n'est qu'un infect mensonge des Américains. »
Doucander était piqué au vif. Il reposa son verre d'un coup sec, renversant du bourbon sur sa main et sur la table.
Le problème n'était pas de mon fait, non plus que la solution. On me donnait des ordres et des instructions, et je leur obéissais.
Le sourire de Todd s'élargit, presque parodique.
Oh, je sais que les Américains ont tout déformé, marmonna le vieil homme. Mais à côté de vos propres politiciens, le docteur Goebbels a l'air d'un gosse à la maternelle qui joue avec des livres d'images. Il parle de moralité alors qu'ils arrosent des enfants hurlants et des vieilles femmes avec du napalm enflammé. Vos objecteurs de conscience sont traités de lâches et de pisse-nixes. Quand ils refusent d'obéir, on les met en prison ou on les élimine de la société. Ceux qui manifestent contre la malheureuse aventure asiatique de leur pays sont matraqués dans les rues. Les GI qui tuent des innocents sont décorés par le président, accueillis tout drapeau dehors avec des défilés alors qu'ils viennent de passer des bébés à la baïonnette et d'incendier des hôpitaux. On leur offre des banquets, les clés de la ville, des billets gratuits pour les matchs de football.
Il leva son verre en regardant Todd.
Seuls ceux qui perdent sont jugés comme criminels de guerre pour avoir obéi aux ordres et aux directives.
Il but, puis une quinte de toux donna un peu de couleur à ses joues. Pendant ce discours, Todd se trémoussa comme lorsque ses parents discutaient de ce qu'ils avaient vu au journal télévisé. Ce bon vieux Walter Klondike, comme disait son père. Les idées politiques de Doucander ne l'intéressaient pas plus que son portefeuille d'action. Selon Todd, les gens inventaient leurs idées politiques pour faire des choses. Comme le jour où il avait voulu glisser sa main sous la robe de Sharon Ackerman, l'année dernière. Sharon avait dit que c'était mal de sa part d'en avoir envie, alors même que d'après le ton de sa voix, il comprenait que cette idée n'était pas sans l'exciter. Alors il lui avait dit qu'il voulait devenir médecin quand il serait grand, et elle l'avait laissé faire. C'était ça, la politique. Il voulait savoir comment les médecins allemands essayaient d'accoupler des femmes avec des chiens. Comment ils mettaient des jumeaux dans des frigidaires pour voir s'ils mouraient au même moment ou s'il y en avait un qui durait plus longtemps. Et les électrochocs. Et les opérations sans anesthésie. Et les soldats allemands violant toutes les femmes dont ils avaient envie. Le reste n'était que des conneries usées faites pour maquiller les trucs juteux après que quelqu'un fût venu y mettre fin.
Si je n'avais pas obéi aux ordres, je serais mort.
Doucander respirait péniblement. Le haut de son corps se balançait d'avant en arrière sur le fauteuil, faisant grincer les ressorts. Une odeur d'alcool planait autour de lui comme un petit nuage.
Il y avait toujours le front russe, Nirktvar. Nos chefs étaient des fous, d'accord, mais on ne discute pas avec des fous. Surtout quand le plus fou de tous a une chance de tous les diables. Il a échappé d'un cheveu à un attentat génial. Les conspirateurs ont été étranglés avec des cordes à piano. Étranglés lentement. On a filmé leur agonie pour l'édification des élites.
« Ouais, au poil !»
s'écria Todd impulsivement.
« Vous avez vu le film ?»«
Oui, je l'ai vu. Nous avons tous vu ce qui arrivait à ceux qui ne voulaient ou ne pouvaient courir plus vite que le vent, en attendant que la tempête prenne fin. Nous avons eu raison de faire ce que nous avons fait. Étant donné le lieu et l'époque, nous avons eu raison. Je le referai. Mais
Son regard tomba sur son verre. Il était vide.
Mais je préfère ne pas en parler, ni même y penser. Ce que nous avons fait, c'était uniquement pour survivre. Et survivre n'a rien de très joli. J'ai fait des rêves.
Lentement, il prit une cigarette dans le coffret sur la TV.
Ouais, j'en ai fait pendant des années. Le noir, et des sons dans le noir. Des moteurs de tracteurs, des moteurs de bulldozers, des crosses cognant ce qui pouvait être de la terre gelée, ou des crânes humains. Des sifflets, des sirènes, des coups de pistolet, des cris. Les portes des wagons à bestiaux qui s'ouvraient à grand bruit les après-midi d'hiver. Ensuite, dans mes rêves, tous les bruits s'arrêtent. Et des yeux s'ouvrent dans le noir, luisant comme des yeux d'animaux dans la forêt mouillée. Pendant des années, j'ai vécu en lisière de la jungle. Et je suppose que c'est pour cela qu'il y avait toujours dans ces rêves l'odeur et la sensation de la jungle. Quand je me réveillais, j'étais trempé de sueur. Mon cœur faisait trembler ma poitrine. Je m'enfonçais les mains dans la bouche pour étouffer mes cris. Et je pensais, le rêve est vrai. Le Brésil, le Paraguay, Cuba, ces endroits sont un rêve. En réalité, je suis toujours à Patine. Les Russes sont plus proches aujourd'hui qu'hier. Certains d'entre eux se souviennent qu'en 1943, ils ont dû manger des cadavres d'Allemands gelés pour rester en vie. Maintenant, ils ne pensent qu'à boire du sang allemand tout chaud. Il y a eu des rumeurs, gamin, comme quoi certains ont justement fait ça en arrivant en Allemagne, égorgé des prisonniers et bu leur sang dans une botte. Je me réveillais en pensant, le travail doit continuer. Même si ce n'est que pour qu'il ne reste aucune preuve de ce que nous avons fait ici, aussi peu que le monde, qui ne veut pas y croire, n'y sera pas obligé. Et je pensais, le travail doit continuer si nous voulons survivre.
Todd l'écoutait avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Ce n'était pas mal du tout, mais il était sûr qu'il y aurait des trucs encore mieux les jours suivants. Dusander avait seulement besoin qu'on l'asticote un peu. Fichtre. Il avait de la chance. Beaucoup de types de son âge sont séniles. Dusander tira longuement sur sa cigarette.
Plus tard, alors que je ne faisais plus ce genre de rêve, il y avait des jours où je croyais revoir quelqu'un de Patine. Jamais des gardes ou des officiers comme moi. Toujours des internés. Je me souviens d'un après-midi en Allemagne de l'Ouest, il y a 10 ans. Il y avait eu un accident sur l'autobahn. Les voitures étaient bloquées sur toutes les voies. J'étais dans ma Maurice, j'écoutais la radio en attendant que la circulation reprenne. J'ai regardé à droite. Il y avait une très vieille Simca dans la file voisine, et l'homme qui était au volant me regardait. Il avait peut-être 50 ans, l'air malade. Sa joue était barrée par une cicatrice. Il avait des cheveux blancs, courts, mal coupés. J'ai regardé ailleurs. Les minutes passaient et les voitures n'avançaient toujours pas. J'ai commencé à jeter des coups d'œil à l'homme dans la Simca. À chaque fois, il me regardait, le visage fixe, comme un cadavre, les yeux enfoncés dans leurs orbites. J'étais persuadé qu'il était à Patine. Il y était, et il m'avait reconnu.
Dusander se passa une main devant les yeux.
C'était l'hiver, l'homme portait un pardessus. Mais j'étais sûr que si je sortais de la voiture pour aller le trouver, lui faire ôter son pardessus et retrousser ses manches, je verrais un numéro sur son bras. La circulation a fini par reprendre. Je me suis éloigné de la Simca. Si l'embouteillage avait duré 10 minutes de plus, je crois que je serais sorti de ma voiture et que j'aurais fait sortir le vieux de la sienne. Je l'aurais frappé, avec ou sans numéro. Je l'aurais frappé pour m'avoir regardé de cette façon. Peu après, j'ai quitté l'Allemagne pour toujours.
Une chance pour vous, dit Todd.
Dusander haussa les épaules.
C'était pareil partout. La Havane, Mexico, Rome. J'ai habité Rome 3 ans, tu sais. Dans un café, je voyais un homme me regarder par-dessus son cappatino.
Une femme dans le hall d'un hôtel qui s'intéressait à moi plutôt qu'à son magazine. Un serveur de restaurant qui ne me quittait pas des yeux, même quand il en servait d'autres. N'importe qui. Je me persuadais que ces gens m'observaient, et le même soir, mon rêve était de retour. Les bruits, la jungle, les yeux. Depuis que je suis arrivé en Amérique, cela m'est sorti de l'esprit. Je vais au cinéma, je dîne dehors une fois par semaine, toujours dans un de ces fast-foods si propres et si bien éclairés par des tubes fluorescents. Ici, chez moi, je fais des puzzles et je lis des romans, mauvais pour la plupart, et je regarde la télé. Le soir, je bois jusqu'à m'endormir. Les rêves ne viennent plus. Quand je vois quelqu'un me regarder au supermarché, à la bibliothèque ou au tabac, je me dis que je dois ressembler à leur grand-père, ou à un vieux professeur, ou à un voisin dans une ville où ils ont vécu il y a longtemps. Il secoua la tête en regardant le garçon. Quoi qu'il soit passé à Patine, c'est arrivé à un autre homme, pas à moi.
Super, dit Todd. Je veux tout savoir.
Lentement, les yeux du vieil homme se fermèrent, se rouvrirent.
Tu ne comprends pas. Je préfère ne pas en parler.
Vous allez le faire, pourtant. Sans quoi je dirai à tout le monde qui vous êtes.
Doucendeur, le teint blême, le contemplait.
Je savais bien qu'on en arriverait tôt ou tard au chantage.
Aujourd'hui, je veux que vous me parliez des fours à gaz,
dit Todd.
Comment vous faisiez rôtir les Juifs?
Un sourire radieux illumina son visage.
Mais remettez vos dents avant de commencer. Vous avez meilleure mine avec vos dents.
Doucendeur fit ce qu'on lui disait. Il parla des fours à gaz jusqu'à ce que Todd dût rentrer chez lui pour déjeuner. Chaque fois qu'il essayait de passer à des généralités, Todd fronçait les sourcils d'un air sévère et lui posait des questions précises pour le remettre sur le droit chemin. Doucendeur buvait beaucoup tout en parlant. Il ne souriait pas. Todd souriait. Todd souriait assez pour deux.